Nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, avec l'égyménologue pour discuter de l'histoire de la Révolution espagnole de 1936-1937. Et là, on va parler plus spécifiquement de ce qui s'est passé en Aragon à partir de juillet 1936 et jusque 1938, quoi. Et c'est une histoire que vous racontez dans le détail, dans votre nouvel ouvrage « A Saragossa o al Charco », Aragon 36-37, récit de protagoniste libertaire, et qui sort ces jours-ci aux éditions L'Insomniaque. Et donc, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu ce mouvement ce début de réalisation du communisme libertaire en Aragon en 36-37, qui est, je reprends les mots que vous utilisez dans le livre, une sorte d'ébauche d'une sortie du capitalisme.
Ah oui, l'Aragon va se retrouver dans une situation très particulière. D'abord, il est partagé, la province est partagée en deux par la ligne de front. Toutes les villes, Huesca, Saragossa, Teruel, sont du côté franquiste. Et c'est la zone rurale la plus, la plus pauvre, avec le plus de petites propriétés, qui va se retrouver côté républicain. Et défendue par des colonnes de miliciens qui arrivent de Barcelone. Et donc trois colonnes anarchistes, celle de Durruti, celle de Ortiz et celle de Ascaso. Quatre colonnes anarchistes, pardon. Ascaso, celle qui est nommée Ascaso en souvenir de Francisco Ascaso qui est tombé pendant les journées de juillet. La Durruti, la Ortiz et la colonne de fer du côté de Teruel. Dans tout ça, ça constitue une situation très particulière. C'est le lieu, le territoire effectivement où les anarchistes sont en armes et dominent à peu près la situation, même si c'est des colonnes du PSOC et des catalanistes aussi, et du PUM. Et c'est la zone où là, il n'y a plus d'État du tout. Là, c'est pas du semblant, du faux semblant. Il n'y a plus de traces de représentants de l'État. Les gardes civils ont fui, les notaires, tout le personnel, les mairies, les notaires, les caciques, les représentants des propriétaires, les contremaîtres, tous ceux qui n'ont pas fui, de toute façon, ils passent un mauvais quart d'heure. En général, ils se font flinguer. Les curés, n'en parlons pas, on le sait. Hein. On n'a pas parlé de ça à Barcelone, à la question de la violence révolutionnaire, mais bon, ce serait une autre question. Mais de fait, en Aragon, en quelques jours, selon les villages, les endroits et les situations, les gens se retrouvent tout seuls, la population ouvrière et les petits paysans et quelques personnes qui sont restées, se retrouvent en situation d'organiser leur existence sans institution au-dessus. Donc là aussi, mais par contre aussi, un autre point spécifique, c'est une grande partie de la militance de la CNT aragonaise se retrouvait à Saragosse. C'était le point fort du bastion de l'anarchisme. Et une partie est piégée dans Saragosse, comme on l'a dit. Saragosse est prise par les militaires, et il est difficile de s'en échapper. Donc on a raconté dans le bouquin avec Antoine Jiménez, on a beaucoup raconté cette histoire des miliciens qui s'occupent de faire sortir les militants de Saragosse et leurs familles. Et là, effectivement, c'est quelque chose d'urgent, parce que Saragosse n'est pas reprise, il faut au moins limiter les dégâts et planquer, trouver des circuits pour récupérer ceux qui se planquent dans Saragosse. Donc ça, c'est une des actions des milices assez vite, c'est ça. Parce que les mecs sont fous de rage de savoir que tous les jours, on fusille à Saragosse, on arrête, on fusille, on torture. Et ces colonnes anarchistes, surtout Durruti et Ortiz, appuient à fond la caisse le mouvement de collectivisation, enfin le mouvement d'implantation du communisme libertaire, qu'on va appeler collectivisation par sorte de terme commun, généralisateur qui va coller à cette situation. Mais c'est vraiment l'implantation du communisme libertaire qui est lancée. Donc, on a quelques commentateurs protagonistes de cette époque qui nous en informent bien précisément. Et notamment le délégué de Valdeobres, qui s'appelle Julián Floristán, qui lui, effectivement, donc suit les modalités de la motion de conduite libertaire évoquée en mai 36 à Saragosse, et qui se retrouve confronté en mi-août 36 aux représentants du comité régional de Catalogne, Basques, dit Marianette, un des membres importants représentant leader naturel de la CNT, qui vient à Caspe au moment où ils décident, les petites collectivités déjà décident de se fédérer. C'est déjà le processus qui commence vraiment rapidement et concrètement. Et il vient leur dire, camarades, le peuple aragonais doit faire le point avant de se lancer dans une aventure qui irrémédiablement aura des conséquences catastrophiques pour les Aragonais et pour notre organisation. Alors, Floristan, ça paraît dans la Tierra y Libertà, en août, le 3 septembre 1936. Et Floristan, un des militants délégués du village de Valderobes, lui répond à la Soli de quelques jours après. Je ne sais pas si l'Aragon est en situation d'implanter le communisme libertaire, mais je sais bien que dans tout le bas et le haut Aragon, par notre propre volonté et par désir unanime, on organise la vie en communauté et dans la plus grande liberté possible. Jamais je n'aurais cru que ce serait le journal anarchiste Tierra y Libertà qui jetterait sur l'Aragon des seaux d'eau froide, comme l'a fait le compagnon Marianette. Nous vivons une réalité que personne ne peut nier. Nous croyons fermement que l'heure est venue de démontrer qu'il est possible d'implanter un régime de liberté et de justice. C'est ce que nous sommes en train de faire, ni plus ni moins. Et ça l'a tellement marqué qu'après coup, dans l'exil, quand il a écrit ses mémoires, il a recommenté cette situation. Du coup, il s'est rendu compte que là, ça avait commencé à poser problème. Je le cite encore. Au lieu de nous encourager à continuer l'œuvre entreprise, Marianette commença par nous dire qu'en Aragon, nous passions par-dessus les accords organiques, c'est-à-dire la fameuse rencontre du 21 juillet à Barcelone. En réalité, dit toujours Floristan, il semble que l'accord fut pris dans une réunion de militants et à la majorité simple. Et dans cette réunion, cet accord organique il consistait à ne pas implanter le communisme libertaire pour ne pas indisposer les secteurs républicains. Il nous dit que nous étions allés trop loin en décidant de reconstruire la vie de façon collective dans les villages d'Aragon libérés du fascisme. Que je m'en souvienne, on ne lui répondit pas comme il l'aurait fallu. Je pense qu'aucun délégué ne l'avait pris au sérieux. Et nous continuons obstinément notre labeur sans tenir compte du reproche. Bon, voilà. Il tente quand même à Barcelone d'aller porter la parole, transmettre la même parole qu'à la militance de la ville. Il faut suspendre le projet le communisme libertaire pour le moment. Mais bon, ils n'ont pas écouté, ils ont continué à faire ce qu'ils voulaient faire.
Et du coup, en quoi ça consistait plus précisément, du coup, comment ça se passait au niveau des communes,
Alors,
entre les communes?
Voilà, un autre témoin direct qui s'appelle José Borras, lui a écrit un gros bouquin là-dessus, Aragon libertaire. Lui, il dit, les structures de l'organisation collectiviste se différaient sur maints aspects, mais elles avaient en commun la volonté farouche d'abolir le salaire individuel et l'argent, non seulement par choix économique, mais par sens de la dignité. On la voit encore, cet esprit, le vieil esprit anarchiste qui pose un mode de vie avant toute chose et qui ne se projette pas dans une économie à reconstituer. Et il dit, les travailleurs aragonais, après coup, après la guerre, il dit « Les travailleurs aragonais prirent leur destin en main au lieu de se limiter à faire fonctionner les usines comme la veille ou à saisir le manchon de la charrue. » Voilà, c'est des petites phrases mais qui sont lourdes de signification. C'est bien dire que le projet, ce n'était pas juste de produire, d'assumer la production. C'est vraiment un projet social, autre, et qui consistait à poser les choses, pas qu'en termes de conduite du travail. Donc, pour José Borras, le fédéralisme communiste libertaire connut trois phases et trois formes de développement. Bah, d'autres peuvent le décrire d'une autre façon, mais lui, c'est comme ça qu'il le décrit. Avec des combinaisons diverses selon les lieux et les situations. Effectivement, les lieux où il y avait les colonnes libertaires, évidemment, le mouvement se savait protégé. Les lieux loin du front où la militance anarchiste n'était pas très forte, pas très implantée, voilà. Il peut y avoir une période d'attentisme où spontanément, personne ne faisait rien. Et il se trouve que dans les structures sociales rurales et les rapports sociaux ruraux, les familles sont très imbriquées. Hein, tu as les familles de droite et de gauche, qui sont, enfin, la même famille a des gens qui votent à droite et qui votent à gauche. Dans les mêmes familles, tu as des possédants et tu as des ouvriers agricoles. Donc, il y a des solidarités familiales qui jouent et aussi des solidarités de voisinage, des gens qui se connaissent depuis toujours. Et tu as des petits villages où, par exemple, quasiment rien ne s'est enclenché, mais ils sont tous toujours serrés les coudes. S'il y avait des militants anarchistes qui arrivaient et qu'ils avaient peur qu'ils commencent à en prendre quelques-uns et à les fusiller, ils les protégeaient. Ou ils, tu vois, Donc, c'est des situations. Il faut voir que ce n'est pas une situation homogène qui va se produire. Et d'ailleurs, au congrès de Saragosse, il avait bien dit notre programme, enfin, je cite même la motion sur le communisme libertaire, nous devons tous penser que structurer avec une précision mathématique la société de l'avenir serait absurde, puisque souvent, entre la théorie et la pratique, il existe un véritable abîme. En esquissant les normes du communisme libertaire, nous ne le présentons pas comme un programme unique qui ne se permettrait pas de modification. Celles-ci apparaîtront et ce seront les nécessités et les expériences même qui les motiveront. Voilà, encore une position. On n'a pas un programme préétabli. Il faut expérimenter et voir. Les gens décideront eux-mêmes ce qui leur convient. Très souple, une position très souple. Donc pour Borras, le premier mouvement spontané, c'est vraiment ce qu'il appelle la comunidad, ou le municipio. C'est tous les habitants de la localité qui s'organisent, comme autant, en gros, des communaux. Il y a une partie des choses qui va revenir au commun, puisque, de fait, systématiquement et spontanément, tous les biens des grands propriétaires qui ont fui à Saragosse sont expropriés. Ça fait pas un pli, et tout le monde est bien d'accord. Donc les bétails, les terres, les outils, les maisons, les bâtiments, tout. Les semences, tout ça est pris en main par la commune. Et ces communes-là se développent automatiquement, cultivent, récoltent, s'organisent et se redistribuent entre eux, toute la production. Après, Borras dit, selon le principe communiste libertaire, tout ça comportait le risque d'un repli sur soi. Et que chaque commune, enfin, ce qu'on appelle les excès du localisme, chaque commune s'organise et puis ne s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs. Donc, lui, il dit, après, dans un deuxième temps, la collectivité proprement dite, c'est-à-dire la structure nouvelle qui n'a jamais été inédite, se met en place. Et ça, c'est des volontaires de la localité. Elle est censée, l'entrée en collectivité est censée être volontaire. Et en troisième niveau de cette progression, c'est le fédéralisme entre les collectivités, au niveau cantonal et au niveau régional. Et ça, on ne verra que les bribes de ça, au niveau régional, ça ne commencera à se poser qu'en février 37. Mais assez spontanément aussi, les collectivités ou les communes, les municipios, se fédèrent au niveau du canton. C'est-à-dire, pareil, on a beaucoup de blé, là, et les autres, ils ont beaucoup d'huile d'olive, hop, là, on fait un coup de camion, on s'échange, on équilibre les surplus, on les répartit, etc.
En fonction des manques, du coup, il y a certaines communes qui ont des manques, du coup, et tout ça, les communes qui ont des surplus leur renvoient, et vice-versa, quoi.
Voilà, là, mais c'est toujours pareil, à l'échelle humaine, au sens de, on contrôle, on sait qui fait quoi, on se connaît bien. En plus, au niveau rural, on se connaît bien. Après, tu as les militants qui viennent qui reviennent de Catalogne. Hein. Tous ceux qui ont travaillé à Barcelone et qui ont milité là-bas reviennent à leur village pour implanter les communes libertaires. Donc, tu as les militants, des endroits, tu as les militants plus déterminés que d'autres. Après, dans un deuxième temps, comme on le sait, va se poser le problème de ceux qui vont intégrer la collectivité parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Parce que, de toute façon, les miliciens armés ne sont pas loin. Là, on a vu cet exemple-là à Pinadebre, où, par exemple, on a bien vu que des villageois très simples, qui avaient un petit bout de terrain et qui vivotaient comme ça, on leur dit, des hommes en armes sont venus, ils nous ont dit, vous mettez tout en commun, ben, on a tout mis en commun, mais bon, on sent bien que ce n'est pas la conviction, ils n'ont pas été convaincus au fil du temps. Là, la pression des hommes en armes a joué, ça c'est indéniable. On ne peut pas, comment dire, magnifier cette histoire-là. Il y a eu des endroits où c'est spontané, où c'est volontaire. Il y a des endroits où, ma foi, ça a été... Mais après, ça a été beaucoup discuté, ça aussi, à l'intérieur du mouvement communiste libertaire. Il y a plein de gens qui ont dit... On laisse venir les gens, les petits propriétaires qui ne veulent pas amener... Enfin, parce que le président de la collectivité, effectivement, je rappelle quand même une chose fondamentale, c'est d'amener tous ses biens. Son lopin de terre, son bétail, etc. En général, la famille gardait son potager, le cochon, etc. Mais toutes les terres sont mises en commun. Et surtout, on casse le phénomène du minifundio, qui était une catastrophe dans certaines régions d'Espagne, et notamment en Aragon. C'est-à-dire le petit lopin de terre de 1 hectare, de moins de 10 hectares, vraiment minuscule, où les mecs, la famille, trimaient là-dessus pour tirer pas grand-chose à bouffer. De toute façon, la famille qui s'agrandissait ne pouvait pas vivre là. Donc, plusieurs enfants étaient obligés de partir, se vendre dans les terres de Castille, faire de l'ouvrier agricole en Castille ou ailleurs, ou travailler dans l'industrie à Barcelone. Le minifundio était une catastrophe pour les petites murettes qui se faisaient... Les limites de propriété qui devenaient de plus en plus présentes dans les campagnes aragonaises, tout ça, c'était une mauvaise pour les communistes libertaires, c'est une aberration, quoi. Il fallait abattre toutes ces murettes, on regroupe toutes les parcelles, on cultive avec les chevaux ou on se munit d'un tracteur et c'est parti, quoi. Et à l'évidence, on allait produire plus, de meilleure qualité, en travaillant moins. Et ça donnerait ceux qui étaient les récalcitrants, qui voulaient garder leur petite propriété parce que pour eux, un des drames avant la Révolution, c'est de devenir salarié. Il ne fallait surtout pas jamais perdre sa propriété, parce que sinon, on tombait dans la déchéance complète qui est aller se vendre sur le marché du travail, comme ouvrier agricole ou ailleurs. Donc là, c'était effectivement ce sens de la dignité dont parlait Borras, c'est là qu'il se retrouvait. Les paysans étaient presque esclaves de leur petit lopin de terre, parce que le pire de tout, c'était de le perdre, parce qu'après, on devenait des salariés. Donc, ils avaient un attachement presque irrépressible à ce lopin. Donc, même quand les gens leur disent « Mais il n'y a plus de propriétaire, c'est terminé, tu ne peux pas devenir salarié. C'est aboli, le salariat, c'est réglé, on n'en parle plus. » Parce que là, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le répète, en Aragon, tout de suite, là, le salariat est aboli, ça ne fait pas un pli. La question est entendue. Donc, les petits propriétaires qui veulent continuer à garder la propriété, OK, vous y allez, on vous laisse faire, faites comme vous voulez, mais vous embauchez personne. Ça, par contre, on vous tombera dessus. Et si vous avez de la terre en trop que vous ne pouvez pas cultiver tout seul, la collective, la prend, puisque nous, on en aura besoin.
Et du coup, par rapport au fait, tu expliques que le salariat, effectivement, était aboli, mais dans un certain nombre de communautés, comme tu l'expliques dans ton livre « A Saragossa o al Charco », il y a même dans un certain nombre de communes, même plus loin que l'abolition du salariat, c'est-à-dire voilà, la mise en place de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire que la production, après avoir été effectuée en commun, est répartie selon les besoins. Alors parfois, par la médiation d'une espèce de compte, on a le droit à un certain nombre de... Oui, tu peux expliquer le système ?
Oui, ce qu'ils appellent le salaire familial. Bon, il y a l'abolition du salariat au sens, effectivement, plus personne ne travaillera pour personne, et on ne quantifie pas le temps de travail des gens. Mais, dans cette époque-là, comme on l'a déjà dit, le travail reste incontournable. Hein. C'est-à-dire, le travail, comme ils disent, est obligatoire. Ça a été dit à Barcelone, partout, on ne peut pas se soustraire au travail. Mais bon, à cette époque-là, visiblement, en tout cas dans les campagnes aragonaises, la question est de travailler moins, mieux, mais on travaille. Effectivement, la collectivité se monte, se fonde sur le travail et sur une distribution équitable. Et cette distribution se fait en fonction du salaire familial, ce qu'ils appellent le salaire familial. Après, ça, il y a des termes, le carnet de rationnement, le carnet familial. En gros, c'est un bout de papier où il est inscrit après sur des registres et mis à jour quand il y a des naissances, etc., ou quand des familles reviennent dans le village. Telle famille, elle a combien de membres ? Voilà, ben on répartira en fonction de la quantité de membres qu'il y a. Elle a travaillé puisqu'elle a son carnet familial qui est là, et qu'elle est inscrite sur le registre, et puis c'est tout. C'est pas compliqué. Donc chaque personne aura, au prorata de ses besoins et des membres de la famille, une partie de la récolte, voilà. Et pour tous les objets, les biens de première nécessité qu'on ne peut pas avoir localement, on a gardé l'argent qu'il y avait dans la mairie, dans la banque locale ou l'argent qu'il y avait chez les riches, qu'on a réquisitionné. Cet argent est mis en commun dans la collectivité Et il servira à payer les dépenses quand il faut se déplacer pour aller voir un médecin, pour aller voyager, pour aller acheter un tracteur. Quand on n'a pas procédé à l'échange entre tracteur, huile d'olive, parce que là, ça n'arrête pas. Hein. Les mecs, dès qu'ils peuvent, ils se procurent un camion, ils filent à Barcelone, ils négocient, parce qu'ils se connaissent tous. Ils vont à tel syndicat, ou telle collectivité, et ils décident de leur proposer un tas d'huile d'olive contre un tracteur, par exemple, ou autre chose.
D'accord. Et du coup, en fait, quand tu, juste pour préciser, évidemment, c'est dans ce sens-là, quand tu dis le travail était obligatoire, mais du coup, c'était une forme d'activité qui était différente de celle du capitalisme, puisque voilà parce que ça insiste, l'activité n'est pas vendue comme marchandise sur un marché, et derrière, la répartition ne se faisait pas en fonction d'une somme d'argent qu'on avait tirée de cette vente.
Voilà, les premiers mois, il n'y a pas de marché. Hein, le marché est aboli. Hein, il n'y a pas de commerçants. Les petits commerçants, c'est fini, c'est terminé. On leur a dit, votre temps est terminé. On se redistribue ce qu'on a et puis c'est tout. Hein. On échange avec les collègues, on échange avec les autres collectivités, on échange là où on peut échanger, avec la collectivité du village de montagne qui, lui, a ceci et nous, on a cela. On va faire des échanges. Et puis voilà. Donc, toujours dans le cadre de la fédération cantonale des collectivités.
Et après, ouais, vas-y.
Il y a aussi la structure du Conseil d'Aragon qui va se placer, se créer en octobre 36, sous l'égide de Ortiz et Durruti, qui estimaient qu'il était important qu'en Aragon il y ait un point fort anarcho-syndicaliste pour aussi rivaliser avec ce qui se passait à Barcelone, parce qu'ils voyaient bien aussi que ça tournait d'une certaine manière, et à une époque, ils pensaient même pouvoir, au niveau militaire, pouvoir s'implanter fortement en Aragon et représenter une force incontournable. Donc ils ont créé le Conseil d'Aragon dans cet esprit-là. Après le Conseil d'Aragon, après il s'est créé, l'armée populaire a commencé à se créer, et puis le commandement militaire a été attribué à un républicain. Donc le Conseil d'Aragon est resté là, au début qu'avec des anarchistes, pour gérer le rapport avec les miliciens, parce qu'effectivement, il y avait quand même des problèmes. Des hommes en armes, des troupes disséminées comme ça sur tout ce territoire, ça créait des problèmes. Et des fois, ils prenaient les bétails, ils se nourrissaient comme ça, les communes étaient un peu secouées. Donc, le Conseil d'Aragon a décidé d'organiser une meilleure harmonisation entre les miliciens et les paysans, parce qu'ils savaient que ça allait poser des gros problèmes. Et ensuite, essayer aussi, à la fonction un peu d'un petit État, de faire la police. De contrôler les gens, les hommes en armes qui circulaient sur le territoire, qui pouvaient, à certains moments, effectivement, forcer la main aux villageois pour qu'ils se collectivisent. Ce qui s'est passé, plusieurs exemples de ça. Ou exécuter des hommes de droite, etc. Contre l'avis des paysans de telle commune, par exemple. Ça aussi, dans le bouquin avec Jiménez, on l'a beaucoup raconté. Il y a beaucoup de communes rurales où la population défendait son curé en disant « Non, non, mais lui, il ne nous a pas fait chier, il est très tranquille, on veut le garder, il n'y a pas de souci, il travaillera avec nous. » Ou tel homme de droite, « Non, mais il n'y a pas de souci, il peut rester avec nous, etc. » Donc il y a eu des tensions très fortes, des fois, avec des hommes en armes qui venaient, effectivement, arrêter. Parce qu'il ne faut pas oublier, on était aussi dans une situation de guerre civile, où le front était là, l'ennemi est là, mais l'ennemi était aussi derrière. Il était dans la population. En Barcelone et partout, il y a des mecs planqués qui attendaient que le moment de saboter à l'arrière. La cinquième colonne, ça date de cette époque-là, hein, la cinquième colonne de Franco, c'est un terme consacré qui date de la guerre d'Espagne.
Et du coup, je voulais demander pour finir un petit peu sur le fonctionnement des communes. On voit bien effectivement du coup qu'il y a une forme d'abolition du travail marchandise, pas seulement du salariat. Une répartition en fonction des besoins, même si c'est encore médié par un système de comptabilité familiale, etc. etc. Et puis aussi, ce qui m'a paru important, c'est effectivement des phénomènes de transfert, de surplus aux autres collectivités, aux autres communes, non pas en fonction d'une espèce d'équivalence de valeur, mais en fonction des besoins des autres communes et des surplus qui sont disponibles. Simplement, pour le processus décisionnel, évidemment, même de ce qui a été produit, été pris en assemblée. Est-ce que tu pourrais rapidement juste détailler ce processus
Ouais, donc le principe d'assemblée générale, effectivement, est appliqué. Et faut pas oublier, j'ai oublié une chose importante, il y a des comités révolutionnaires qui se créent là, en lieu et place des mairies, quoi, en gros. Hein. Tu as des comités révolutionnaires. Tu as plusieurs structures. Hein. Ce n'est pas toujours évident de suivre, hein, parce qu'en plus, c'est dans les villages. Mais enfin, il y a des points communs à tous les villages aragonais à ce moment-là. Tu as le comité révolutionnaire. Tu as la collectivité. Tu as les petits propriétaires organisés ou pas en rapport avec la collectivité. Tu as un groupe d'investigation. En gros, c'est un groupe d'investigation aussi. En gros, tu retrouves toujours là-dedans un peu les militants de la CNTFI, de toute façon. Hein. C'est des gens qui, effectivement, surveillent s'il y a des hommes de droite planqués, s'il y a des mecs qui ont gardé des armes, s'il faut qu'on... quels sont les gens dangereux pour le processus révolutionnaire. Donc, tu as plusieurs structures, mais comme nous disait un des copains dont on parle dans le deuxième bouquin, là, Emilio Marco, moi, en fait, je voyais les militants de la CNT présents dans toutes ces structures-là. La collectivité, les comités révolutionnaires, le comité d'investigation, ils étaient en rapport avec les milices, etc. Il y a tout un va-et-vient de militances qui interviennent à tous les niveaux de cette organisation sociale. Après, il y a des situations originales entre les petits propriétaires et les collectivistes. Tu as des villages où, effectivement, les petits propriétaires ne veulent surtout pas entrer dans la collectivité, amener leurs biens, mais ils acceptent de travailler en commun. Donc, ils trouvent que c'est effectivement plus intelligent de rassembler les parcelles disséminées. Ils acceptent plein de choses, et finalement, jusqu'au point où ils ne rentrent, mais sans pour autant rentrer dans la collectivité. Et après, au niveau de la redistribution, ils sont comptés avec les autres. Alors, tu vois, il y a plusieurs situations où ils s'arrangent, comme ils ont dit, c'est pas un programme préétabli, on voit. Et c'est vraiment ça qui s'est pratiqué, là, c'est vraiment pas du flan. Quand toi, t'as mis le document maintenant, hein, sur en Espagne, il se produit une quantité incroyable de monographies régionales sur ce qui s'est passé dans chaque village sur 2-3 ans, quoi. Et même après l'exil, les mecs, ils racontent encore des choses, enfin, c'est assez sidérant.
Oui, mais malheureusement, il y a quand même beaucoup de documents qui ont été évidemment perdus, quoi, hein, dans la situation qu'ont connue les collectivités. D'abord, quand elles ont été attaquées par les colonnes communistes de l'Ister à l'été 1937, là déjà, il y a eu une première attaque des collectivités, une première dissolution des collectivités. Et là, il y a beaucoup de documentation qui a été perdue à ce moment-là, parce qu'en fait, dans les collectivités, ils avaient un goût aussi très marqué. Même s'il y avait une certaine forme de dépassement des évaluations, ils avaient un goût extrêmement marqué pour les statistiques. Hein. Tout était compté vraiment grain à grain. Quoi, hein. C'était quelque chose. Antoine Jiménez le raconte, ça, effectivement, en disant qu'ils étaient analphabètes, mais par contre, ils avaient une table à calculer dans la tête. C'était assez impressionnant. Donc ça, effectivement, ces statistiques, si elles avaient pu être conservées et transmises, pourraient permettre de savoir dans quelle mesure les échanges qui continuaient à exister étaient encore indexés sur une évaluation rapportée d'une manière ou d'une autre au temps de travail ou non. Mais ça, c'est quelque chose qui est quasiment hors de notre portée. Mais ce qu'on peut dire a priori, comme ça vu de loin, c'est qu'il y avait des situations extrêmement diverses. Il y avait une polarité entre des collectivités qui fonctionnaient encore très clairement selon une estimation, une évaluation du temps de travail. Et puis d'autres qui éventuellement n'étaient pas loin de s'affranchir effectivement de toute évaluation. Ce qui fait se souvenir que Marx expose dans les premiers chapitres du Capital, en quoi c'est le fait que des marchandises différentes puissent être rapportées les unes aux autres. La seule façon de les rapporter, selon lui, et bon, il reprend l'idée à David Ricardo, c'est le temps de travail incorporé dans chacune de ces marchandises. Et cette évaluation-là, qui va permettre de fonder la valeur, c'est une condition de possibilité absolument indispensable à l'établissement du fonctionnement du capitalisme. Sans cette évaluation primordiale, évidemment, la machine capitaliste ne peut pas fonctionner. Donc le fait de savoir, par exemple, que le travail, d'une certaine façon, n'est plus tout à fait un travail capitaliste, n'empêche pas qu'il y ait pu y avoir encore des évaluations qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'on peut se trouver dans une situation qui existe dans le capitalisme normal, où la machine globale fonctionne, tout en ayant des secteurs qui ne sont pas productifs de valeur. On peut très bien se retrouver dans une situation, même dans le cadre des collectivités, où il n'y avait pas de production de valeur, vu qu'il n'y avait plus de salariat, il n'y avait plus de surtravail, il n'y avait plus de survaleur produite, extraite, qui puisse ensuite faire office d'accumulation pour le capital, mais où on pouvait encore avoir quand même cette condition primordiale qui est l'évaluation du temps de travail. Et évidemment, c'est là qu'on a affaire à des difficultés, effectivement, même conceptuelles.
En tout cas, là-dessus, sur ce point-là, j'ai retrouvé un petit témoignage d'un bouquin qui est paru à CNTRP sur Calanda, la collectivité de Calanda. Et un mec qui s'appelle Miguel Selma qui raconte tout ça en détail. Et lui, il dit bien, à un moment donné, et ce que effectivement j'ai trouvé par ailleurs, la CNT parle d'établir un carnet de producteurs, au niveau toute la CNT. Hein. Et là, un carnet de producteurs, c'était vraiment un produit onirique que dans les années 30, certains milieux fascistes même avaient proposé. C'était vraiment, la CNT avait hurlé contre ça à une époque, hein, où chacun il est établi, le travailleur, toute sa vie, tout son cursus, où il a travaillé, quoi, comment il travaille, etc. Un truc, une aberration. Et Selma, il dit, on commence à parler de carnet de producteurs, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Chez nous, c'est aberrant. Nous, chez nous, il n'y a aucune notion de rentabilité. On a refusé tout le contrôle du travail. Notre rôle, il dit même, notre rôle, ce n'est pas de travailler, c'est d'avoir ce qu'il faut. Donc, avec des mots simples et des sentiments bien, bien affirmés, et pour lui, il ne voulait pas laisser la moindre prise à ça. Donc, encore une fois, il s'insurgeait contre la CNT, parce que le carnet de producteurs, c'est la CNT et l'ORETE qui l'ont proposé.
Oui, c'est pour ça que vous dites dans votre livre, justement, qu'il s'agit d'une ébauche d'une sortie du capitalisme qui est plus ou moins avancée selon les communes.
Et qui est seule, qui est cernée.
Qui est cernée, en plus, mais où, effectivement, il y a quand même déjà des formes d'affranchissement du travail, de la marchandise, de l'argent.
Et à partir de cette mentalité profondément anarchiste, du premier anarchisme, quoi, des anarcho-communistes de 1876. Quoi, qui avaient...
Oui, et leurs principes, du coup, chacun selon ses moyens.
Ce film-là m'a paru intéressant à montrer, quoi, à faire ressortir.
Mmh. Oui, bah, c'est clair qu'on peut en plus... clairement l'observer. Et du coup, ces communes qui représentent quand même quelque chose d'intéressant historiquement, et peut-être, il me semble que vous utilisez aussi une autre formule assez forte dans votre livre, qui est que c'est une des luttes concrètes, peut-être la lutte concrète qui va le plus loin au XXe siècle, au moins dans le début d'un dépassement des rapports sociaux capitalistes. Peut-être rapidement dire comment est-ce qu'elle va, disons, subir de plein fouet la contre-révolution des colonnes de Lister qui vont être avec une température qui est légèrement différente de celle de Barcelone, et puis en plus les communes ne sont pas sont dissoutes mais puis sont reconstituées. Vous pouvez rappeler rapidement cette histoire?
Oui. Alors, juste avant, il faut quand même parler d'un processus interne là, qui s'expérimente mais qui ne donne pas les fruits escomptés. C'est la création de la Fédération des collectivités en février 1937. Donc, c'est le deuxième cran du fédéralisme libertaire hein, qui se met en place. Et là, c'est aussi relaté dans un bouquin, c'est le Carrasquer, qui est publié en français aussi aux éditions CNTRP. Et il raconte bien la situation. Et il dit, là, effectivement, il fallait convaincre les gens qu'il y a des choses qui allaient se passer un peu au-dessus de leur tête. C'est-à-dire pas au niveau local, cantonal, c'est au niveau régional. Et il dit, là, on a vu les résistances. Parce que là, il fallait que partent des villages et des cantons des statistiques extrêmement précises sur de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez en trop, quels sont vos surplus. Et à partir de là, au niveau de la Fédération des collectivités régionales, toujours au niveau de gens qui sont délégués, désignés et qui rendent compte régulièrement de ce qu'ils font, hein, avec une démocratie directe systématique, il faut que la production soit répartie en fonction de ça. Hein, alors, il y a une caisse qui va rassembler des surplus et qui va être redistribuée aux communes ou aux régions qui manquent de ci et de ça. Et là, tous les commentateurs de ce phénomène-là, ils disaient faut reconnaître que ça n'a pas marché du tout. La statistique, là, il y a une méfiance. Au-delà de ce qu'on connaît, des gens qu'on connaît, de régions où on peut se déplacer, contrôler les choses, là, on contrôle moins. Et là, il y en a qui ont dit, ben voilà, c'est ça le problème du localisme. Après, ça nourrit des égoïsmes locaux, etc. Donc ça a été beaucoup discuté. Et toujours pareil, cette expérience avait continué plus que 13 mois, on aurait pu voir tous ces problèmes, comment ils étaient traités, etc. Mais là, en février 37, déjà, vont se focaliser beaucoup, beaucoup de problèmes. D'une part, toujours pareil, au niveau en Catalogne, à Madrid, ailleurs, on sort des lois, des lois et des lois qui, en gros, encore une fois, j'avais déjà signalé que le décret de collectivisation rendait illégales toutes les collectivisations
qui expropriaient des gens qui n'étaient pas passés du côté fasciste. Quoi.
Voilà. L'État va vouloir se réintroduire en Aragon, tout simplement. Il va l'essayer d'une multiple manière. Donc le Conseil d'Aragon, il va lui demander en gros de devenir un petit front populaire, qu'il ne faut pas qu'il y ait que les anarchistes dans le Conseil d'Aragon. Le Conseil d'Aragon a de telles tensions avec la Catalogne qu'il décide de passer sous le joug du gouvernement national. Donc il est légalisé en décembre 36. Total, il perd tout crédit. Hein. Les autres disent, ben putain. Conseil d'Aragon, ça ne nous concerne plus. C'est la Fédération des collectivités qui, maintenant, va se charger de la redistribution. Mais ce processus-là va devoir s'affronter aux problèmes internes que j'ai déjà évoqués, et puis à la pression énorme venant des autres partis, des contre-révolutionnaires et de l'État régional et national pour inciter les petits propriétaires à se retirer des collectivités. Là, il est dit ouvertement, en Catalogne et en Aragon, collectiviste qui est pas content, vous avez le droit de sortir des collectivités. Et même, on vous y incite. Et on va rétablir un marché, on va rétablir un tas de conditions qui feront que vous saurez où vendre vos produits. C'est ce qui se passe à Barcelone. Déjà, parce que le marché n'a pas été aboli. Et en Aragon, les commerçants commencent à venir... puisqu'en Aragon, en plus, grâce au Conseil d'Aragon, quand même, les prix étaient stables. On était quand même dans une économie de marché autour de soi, mais à l'intérieur, le Conseil d'Aragon, par exemple, a acheté des produits en Catalogne et les revendait moitié prix en Aragon, pour que l'inflation de guerre n'ait pas d'effet. Et ça a très bien marché. Mais au bout d'un moment, la pression du marché, encore une fois, l'Aragon est cerné. Et puis surtout, n'oublions pas une chose que j'ai oubliée, Durruti est neutralisé, envoyé à Madrid. Et on sait que là-bas, il y perd la vie, dans des conditions pas nettes du tout. Et Ortiz, l'autre chef de colonne qui défendait beaucoup les collectivités, commence à avoir aussi de sacrés ennuis. Parce qu'eux, ils tenaient tête aux communistes, à la pression des communistes. Tant qu'ils étaient là, et surtout Durruti, les communistes n'osaient pas trop. Mais il faut voir aussi la progression du Parti communiste à ce moment-là. Hein.
Oui, on en parlera un petit peu plus tard.
Ouais. Non, mais pour dire qu'on n'oublie pas que le rapport de force change. De semaine en semaine, hein, carrément. À Barcelone, mais aussi en Aragon. La pression devient de plus en plus, s'insinue de plus en plus. Donc il y a la pression du marché, la pression des commerçants qui viennent en Aragon proposer aux petits propriétaires d'acheter leurs produits avec de l'argent classique, des pesetas. Et paraît-il que c'est Seidman qui a travaillé un petit peu là-dessus, sur un des travaux inédits de Seidman sur les collectivisations agricoles. Il dit que certaines collectivités ont été tentées aussi de vendre des produits... à des commerçants classiques venus. Donc il y a la pression de la guerre, on croit toujours pas, et au début on croit que la guerre ne va pas durer. Elle dure. Ensuite, il ne faut pas oublier aussi un truc important, les jeunes gens des villages qui étaient lancés à fond dans la collectivité, ils sont, quand l'armée populaire se constitue en octobre, novembre, 36, avec toutes les tensions qu'on a déjà décrites dans nos bouquins précédents, il n'empêche que les mecs, ils sont mobilisés. Donc ça fait 200-300 bras par village qui dégagent. Donc, comme disait un militant aragonais à un autre, on avait bien calculé, nous, en travaillant plus rationnellement avec quelques outils, quelques machines et tout, on faisait 3 heures par jour, on satisfaisait tous nos besoins 3 heures par jour. Maintenant, on n'a jamais autant travaillé de notre vie, avec la guerre, nourrir les milices, nourrir Madrid quand ils sont cernés. Ils n'arrêtaient pas, les mecs, ils n'arrêtaient pas. Donc voilà, il faut prendre en compte tout ça, c'est ouais, complexe.
Le contexte et les contraintes.
Il faut avoir tout ça. Ils avaient énormément de plaisir à faire tout ce qu'ils faisaient, tous les témoignages concordent. Là. Il y a même des petits propriétaires qui disent, mais finalement, ouais, il y a plein qui témoignent, c'est pas con. Finalement, on travaille un peu moins, c'est plus rationnel, tout le monde mange, c'est vrai, il faut reconnaître, tout le monde mange mieux. Avant, il y avait plein de mecs qui crevaient la faim. Il y en a plein qui commencent à trouver ça pas mal, quoi. Mais il y a tout un contexte, une contre-révolution, mais de mille facettes qui est à l'œuvre. Donc tout ça va leur tomber dessus, concrètement, à l'été 37. Bon, il y a mai 37 entre-temps. Drouty est neutralisé. La colonne Ortiz qui est déjà pressurisée par les communistes qui essayent de leur faire accepter les conditions du gouvernement. Et il y a, après mai 37, des guerres civiles, à l'intérieur de la guerre civile, déjà aussi qui commencent en Aragon. C'est-à-dire des militants oukrétés, CNT se tirent dessus. Il y a des pressions. La pression monte comme en Catalogne, avec un léger décalage. Et le coup de force fondamental, donc c'est août 37, quand des divisions communistes, donc l'armée réorganisée, les anarches commencent à perdre beaucoup, beaucoup de leur puissance et le rapport de force n'est pas en leur faveur. Et les divisions communistes commencent à pénétrer en Aragon, sous prétexte d'aller prendre Saragosse, parce que ces anarches incompétents n'avaient pas réussi à la prendre, mais eux, ils allaient le faire. Et ils se répandent dans les terres aragonaises. Au lieu d'aller au front, ils traînent. Commencent à contrôler les choses, à surveiller, à repérer les militants, ils prennent les récoltes, tout d'un coup ils décident de prendre le camion de la collectivité, la pression augmente, jusqu'au moment où on décide de vraiment de commencer à détruire les collectivités. Ça c'est en août, et de dissoudre le Conseil d'Aragon, symboliquement, parce que de toute façon il était déjà un peu vidé sa substance. Là, c'est vraiment l'assaut contre les collectivités, direct, ouvert, pas dissimulé. Et là, ils arrêtent énormément de militants, ils cassent des structures de la collectivité, ils volent les semences, ils volent le bétail, ils cassent tout l'outillage, tout ce qu'ils avaient installé, le téléphone, l'électricité, des camions, des voies de circulation, tout ça est saboté ou réquisitionné.
Et même là, ce qui est épouvantable, c'est que la CNT catalane ne fait rien. Là. Elle ne lève pas le petit doigt pour prendre la défense des collectivités aragonaises.
Comme en mai 37, il est dit aux miliciens des colonnes qui sont fous de rage et qui veulent partir, bougez pas, surtout ne bougez pas. En mai 37, on ne leur demande pas bouger le palais Barcelone. Et pendant ce déferlement, il leur dit, ne bougez pas, on réglera les comptes après.
Ouais,
et là, c'est assez effroyable.
Oui, c'est assez effroyable. Et bon, finalement, après cette contre-révolution, au bout d'un certain temps, les communistes, parce que ça, du coup, en plein mois d'août, c'est les récoltes, sont obligés de, en toute hâte, de laisser se reconstituer un peu des communes, mais qui ont un peu perdu de leur motivation, et puis qui ont perdu aussi quelques hommes qui sont en prison, etc., etc. Et tu pourrais compléter un petit peu, Vincent.
Oui, parce que en parallèle de tout ce qu'a décrit Myrtille, il y a aussi encore un autre phénomène qui accompagne tout ça. C'était le remplacement des comités révolutionnaires par les conseils municipaux. Hein, comme elle avait rappelé tout à l'heure, il y avait des décrets qui avaient été émis en octobre. Il y avait trois décrets. Il y en avait un qui concernait justement la dissolution des comités révolutionnaires qui devait être remplacé par des conseils municipaux. Donc ça voulait dire en fait réintroduire les politiciens et même à la limite le pouvoir des caciques, quoi, hein, localement. Et ça, c'était donc une des opérations pour la reconstitution de l'État qui est passé à travers ça. Et donc, ça veut dire que l'objectif du pouvoir à ce moment-là, de la généralité et de l'État central, c'était d'affaiblir les collectivités jusqu'à les vider de leur substance, et avec l'idée que les gens se remettraient au travail sous le contrôle des nouveaux conseils municipaux élus ou trafiqués, comme c'est toujours l'habitude. Et en fait, malheureusement, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que les gens, quand ils se sont retrouvés privés des collectivités, ils ont arrêté complètement le boulot. Donc là, effectivement, l'État s'est rendu compte qu'il a été obligé à ce moment-là de lâcher du lest pour permettre aux paysans de reconstituer les collectivités et pour avoir une chance d'avoir une nouvelle récolte l'année d'après. Enfin, qu'ils n'auront pas d'ailleurs, puisque en fait, en mars 38, enfin février-mars 38, le front va être complètement enfoncé et c'est les franquistes qui vont faire la récolte.
Oui, la répression commence en Aragon, mars 38. Quoi. C'est vraiment la deuxième type de répression commence pour ceux qui n'ont pas réussi à fuir ou qui ont cru que... Parce qu'il y en a plein, pour eux, même faire partie d'une collectivité, ça n'avait rien de criminel. Ils n'avaient pas le sentiment que même on pouvait les tuer pour ça. Quoi. Donc il y en a de quelques familles qui se déplaçaient de quelques kilomètres en disant « Bon, on va voir comment ça se présente et tout, on attend. » Et s'ils ne partaient pas assez vite, ils étaient rattrapés, ils fusillaient. Mais ils fusillaient des vieux de 90 ans, ils fusillaient tout le monde, tous les gens, le maire républicain, ils fusillaient tous les gens qui avaient trempé dans quoi que ce soit de l'organisation sociale. Ils les fusillaient tous, les vieux, les jeunes, les femmes, c'est effroyable. Quoi. À Calanda, ils disent, mais le nombre de morts, on ne peut pas imaginer. Des gens ne sont pas partis en disant, mais moi, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas participé à la collectivité. Je n'ai rien fait. Je suis resté là. Terminé. Ils n'ont pas fait le détail. Là, c'est la furie. Quoi. C'est la furie, une cruauté encore qui recommence. Dont les gens qui peuvent fuir, ils fuient en Catalogne.
Et c'est pour ça qu'on a, c'est bien parce qu'on va parler dans la dernière partie de l'émission de la dite violence révolutionnaire, mais effectivement, il faut voilà toujours la mettre en perspective de la violence contre-révolutionnaire fasciste, parce qu'il y a aussi la violence contre-révolutionnaire communiste et républicaine, mais cette violence contre-révolutionnaire fasciste, elle était encore largement plus impitoyable, puisque là, elle faisait même pas d'exception, quoi. C'était vraiment en liquide. Tous ceux qui ont eu maille avec juste la République, sans parler de la Révolution. Et effectivement, d'ailleurs, la contre-révolution communiste aussi n'a pas fait beaucoup dans le détail, même si elle fusillait pas toujours, et parfois elle l'envoyait juste en prison, mais c'était pas. Voilà.
Oui, bien sûr.
Et du coup, on va faire une dernière pause musicale avant une dernière partie qui sera consacrée. Donc à la question des milices, du front, ce sera une dernière partie assez rapide, je pense. La question des milices, du front, la militarisation, l'armée populaire, la contre-révolution à l'œuvre, notamment avec le recrutement massif par le Parti communiste espagnol, l'importance de Moscou dans la stratégie du Parti communiste espagnol, et puis la question de la violence révolutionnaire. Voilà.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies, parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies, le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés, les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repère de curés, ni de marchands, de policiers, au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récolte les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats.